John et Maus, premier cycle. Adapté de l'allemand John und Maus de Michael Esser. Musique de Mourinae. Traduction française d'Aurore Pérol. Pour les éditions, trois petits points. John était soucieux. Comme chaque jour, il avait énuméré les choses qu'il aimait, puis les choses qu'il n'aimait pas. C'était une sorte d'exercice auquel il se livrait dans l'espoir de se réconcilier avec son destin, de savoir à quoi s'attendre. Il n'allait pas forcément mieux après, mais ce qui l'inquiétait ne le prenait plus autant par surprise. L'espace d'un instant, il éprouvait une sensation réconfortante, comme s'il n'y avait rien de plus normal que d'être inquiet. Quelques minutes plus tard pourtant, les rouages de son cerveau se remettaient à tourner à toute vitesse. Alors, il énumérait les choses qu'il aimait, puis les choses qu'il redoutait. Et il avait peur. Au bout d'un moment, il se demanda s'il ne devrait pas tout inverser, commencer par les choses qu'il redoutait et finir par celles qu'il aimait. Fallait-il essayer ? Comment se sentirait-il après ? Autour de lui, le grand jardin était magnifique, verdoyant et ensoleillé. Au fond, une pente descendait à pic. L'horizon était dégagé. Aucun obstacle n'arrêtait le regard. Une souris vint s'asseoir à ses pieds.
Comment ça va ?
Des soucis, dit-il.
Des gros ?
Pas petits, en tout cas.
Rien de vraiment nouveau, alors ?
Ce n'était pas faux. C'était chaque jour la même chose. Chaque jour depuis qu'il était là, dehors.
Le premier jour, tu m'as dit que tu étais ici pour que ça aille mieux. Quand je t'ai demandé ce qui devait aller mieux, tu as répondu « tout ». Je te l'ai dit tout de suite. C'est trop demandé. Rien ne va jamais vraiment mieux. Les choses sont comme elles sont, et pas autrement.
Il se mit à fredonner. Il n'avait pas envie de l'écouter quand elle se mettait à parler comme ça. Elle avait peut-être raison. Mais peut-être pas. Qu'est-ce qu'elle en savait ? Ce n'était qu'une souris, après tout. Elle ne pouvait pas en savoir plus qu'une souris. Elle venait tous les jours. Et tous les jours, ils discutaient ensemble. Et tous les jours, il était d'abord inquiet, puis il avait peur. C'était tous les jours la même chose.
Tu es venu dans ce jardin et tu as commencé à creuser un trou. Tu t'y es mis, tu as recouvert tes pieds de terre et tu as versé de l'eau. Quand je t'ai demandé ce que tu étais en train de faire, tu m'as répondu « J'essaie de grandir ».
À l'école, les autres s'étaient moqués de lui. Ils avaient dit qu'il était petit. C'était horrible. Il ne voulait pas être petit. Il voulait être comme les autres. Alors il faisait tout ce qu'il pouvait pour grandir plus vite. Mais il avait beau essayer, rien ne marchait. Son dernier espoir, c'était de faire ce qui avait l'air de fonctionner pour tant d'êtres vivants. Dans les champs et dans les bois, dans les clairières et dans les prairies, dans les jardins et dans les prés, jusque dans les jardinières des balcons et les pots de fleurs posés au rebord des fenêtres. Ceux qui avaient tout compris, à son avis, c'étaient les arbres du jardin. Eux, ils étaient vraiment grands, plus grands que tout le reste, les plus grands êtres vivants du monde. Un jour, il se dit qu'il devrait suivre leur exemple. Le mieux serait d'être parmi eux et de les imiter. Peut-être qu'il serait plus gentil que les enfants de son école. Peut-être même qu'il lui confierait leurs secrets.
Ils sont têtus, mais ils sont aimables et patients. Et peut-être même sages. On ne sait pas exactement. Ils ne parlent pas beaucoup, En fait, ils ne disent presque jamais rien. Mais ils vivent très longtemps. Et pour vivre très longtemps, il faut bien savoir comment s'y prendre.
S'y prendre avec quoi ?
Avec comment être un arbre. C'est bien ce que tu veux comprendre.
Je veux grandir, répondit John. Simplement grandir. Le cliquetis des voiliers résonnait dans le port. Tout était comme au ralenti, car dans le ciel et sur l'eau, les choses semblent se mouvoir plus lentement. La souris lui montra les mouettes qui voltigeaient derrière les voiliers. Elles attrapaient et dévoraient au vol les entrailles des poissons que les pêcheurs rejetaient à l'eau. John admira leur adresse, le parfait équilibre entre l'effort déployé et le gain obtenu. Les mouettes avaient appris à se nourrir en fournissant le moins d'efforts possible. Tout ce qu'il leur restait à faire, c'était récolter le fruit du travail des pêcheurs. La souris resta un instant silencieuse, puis se mit à raconter l'histoire d'un requin qui, il y a très très longtemps, avait suivi un grand voilier à travers l'océan Atlantique, depuis l'Afrique jusqu'en Amérique.
Il suivait le navire à 3000 miles en attendant patiemment sa proie, car chaque jour, un des esclaves du bateau mourait et était jeté par-dessus bord, jour après jour après jour.
John regardait le ciel. Tout en haut, des avions dessinaient des lignes blanches parallèles qui se croisaient bien avant l'infini. La souris attira son attention sur une rangée d'églantiers. Une couleuvre à collier y avait attrapé une grenouille par la patte gauche. L'amphibien avait le regard étrangement fixe alors qu'il tentait de s'échapper en s'aidant de sa patte libre. Pourtant, la grenouille paraissait avoir compris qu'elle n'avait aucune chance. Elle essayait bien de se défendre, mais elle ne se battait pas vraiment pour sauver sa vie. C'était plutôt de l'ordre du réflexe, une cérémonie tournant à vide. Le serpent avançait, s'approchait de quelques centimètres de sa proie. Il attendait le moment où elle se relâcherait enfin pour ouvrir sa gueule en un éclair et la refermer aussitôt. Le regard de la grenouille restait stoïque, mais ses mouvements se faisaient plus lents. Elle ne semblait pas avoir peur. Bien sûr, il n'est pas facile d'imaginer à quoi ressemble une grenouille saisie par la peur de mourir. Mais l'animal avait l'air d'accepter son destin. Le serpent paraissait le savoir. L'engloutissement de l'un par l'autre évoquait un rituel que tous deux avaient d'ores et déjà accepté. La gueule du serpent se referma sur la grenouille qui tenait tout entière dans le corps du serpent. Disparue de la surface de la terre. Est-ce qu'elle était déjà morte? Ou vivait-elle encore, paralysée par la peur, dans la sombre exiguïté du gosier du serpent? Était-elle en train d'étouffer? Absorbée par un autre corps vivant?
« Sale serpent !» murmura John.
« Pourquoi n'es-tu pas intervenu si tu n'étais pas d'accord ?»
demanda la souris. Il aurait pu sauver la grenouille. Il n'y avait pas pensé. Ça ne lui était pas venu à l'esprit. Il avait observé tout ce processus sans imaginer que les choses auraient pu être différentes. Ça devait se passer comme ça. Comme ça, et pas autrement. Assise sur l'épaule de John, la souris regardait le lac. Le vent couronnait les vagues de petits moutons d'écume, mais juste l'espace d'un instant, histoire qu'elle ne s'imagine rien, toutes couronnées qu'elles étaient.
Ce sont toutes les mêmes, un grand peuple patient que rien ne lasse et qui se brisera contre la prochaine rive.
Qui ça ? Demanda John.
Les vagues.
Il pensa qu'à nouveau la souris faisait comme si c'était un jeu d'enfant de comprendre le monde. Comme si elle s'en était enquise personnellement et qu'elle avait obtenu une réponse de première main du peuple des vagues lui-même. C'est pourquoi il affirma « Ce n'est que le lac et l'eau qu'il contient. Demain déjà, tout sera différent. C'est toujours comme ça. Les vagues prennent une autre direction parce que le vent tourne. Ou alors parce qu'il pleut. Ou alors que le soleil brille et que l'eau prend des reflets bleus. Le lac change d'un jour à l'autre.
Le lac est toujours le même. il y a des milliers d'années qu'il est comme il est aujourd'hui. Il change seulement quand quelque chose d'important survient. Un tremblement de terre, une période glaciaire, une pluie de comètes.
Ça intéressait John. Il se demanda ce qui se passait dans un tel cas. Un tremblement de terre, une période glaciaire, une pluie de comètes. Il était probable que le lac disparaîtrait. Mais qu'adviendrait-il de l'eau ?
L'eau s'en fiche. Elle reste de l'eau et continue à faire ce qu'elle fait toujours. Elle s'écoule. Rapidement quand elle est liquide, lentement quand elle est glacée. Imperceptiblement quand elle se transforme en vapeur. Depuis toujours.
Depuis toujours, ça, John ne voulait pas le croire. Pas depuis si longtemps. L'eau n'existait même pas il y a si longtemps.
Si, John, si. L'eau existe depuis toujours. Et elle reste toujours la même. Peu importe ce qui s'y dissout ou ce qui y vit. À la fin, elle redevient toujours de l'eau. C'est comme ça depuis des milliards d'années. Des milliards, John. Tu sais combien ça fait ?
Vraiment, 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 vraiment beaucoup, suggéra le garçon en essayant de venir à bout de ce nombre immense.
Non, John, bien plus encore. Si tu comptais chaque seconde de ta vie, chiffre après chiffre, sans t'arrêter, sans dormir, comptant, comptant et comptant encore, seconde après seconde, après seconde, au bout de 32 ans, tu atteindrais 1 milliard. Et l'eau est au moins 15 fois plus âgée. Elle est immortelle.
John était très impressionné. Ça voulait dire que quand il buvait un verre d'eau, cette eau existait avant même que la Terre n'existe, alors que l'univers n'était encore qu'un vaste chaos, alors que le soleil lui-même n'était pas encore né. Comment l'eau pouvait-elle malgré tout être aussi fraîche ? Le mystère, du moins une partie du mystère, était ainsi résolu. L'eau était immortelle parce qu'elle ne vieillissait pas. Ou était-ce l'inverse ?